Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Sans doute la fin ce matin de 6 ans de mystère à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard.
Des ossements ont été retrouvés hier près de l'endroit où avait disparu Lucas Tronche. Nous serons sur place dès le début de ce journal où nous attend Étienne Baudu. L'augmentation des cas dus au variant Delta, la baisse du rythme des vaccinations, deux éléments qui font craindre un rebond de l'épidémie d'ici les vacances. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, férocement critiqué hier à Bruxelles après la promulgation d'une loi jugée homophobe. « Tu n'as plus rien à faire en Europe », lui a lancé son homologue néerlandais. Et puis ça bouchonne devant l'infirmerie des Bleus à 3 jours du match contre la Suisse. Les blessés s'accumulent. On fera le point avec Nicolas Georgerot.
La politique, Olivier Bost.
Dimanche, il faut le rappeler, il y a des élections et l'abstention n'est pas une fatalité.
Eh bien, nous le rappellerons dès la fin du journal.
RTL Matin. On sait donc probablement la fin d'un mystère qui aura duré plus de 6 ans. Le 18 mars 2015, à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, disparaissait Lucas Tronche, un ado de 15 ans, sans histoire, alors qu'il se rendait à pied à la piscine. Hier, des ossements humains ont été découverts près d'une paroi rocheuse, non loin de son domicile. Des vêtements, un sac à dos également, similaire à ce qu'il portait le jour de sa disparition. Il y a peu de doutes sur le fait qu'il s'agisse du jeune garçon. La photo de Lucas a d'ailleurs été retirée hier soir du fichier des personnes disparues. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes sur place depuis hier soir. C'est dans une zone très escarpée, très difficile d'accès qu'ont été retrouvés tous ces éléments.
Oui, en fait, les sapeurs-pompiers spécialisés en intervention en milieu périlleux étaient à pied d'œuvre depuis mardi pour de nouvelles recherches ordonnées par la juge d'instruction. Une zone que fréquentait Lucas avec son père et qui se trouve à moins d'un kilomètre d'Oiseau du domicile familial. Cette zone avait été déjà ratissée il y a 6 ans, mais cette fois-ci, ce sont donc le long des parois rocheuses que les sapeurs sont intervenus, encordés dans une garrigue dense et boisée. Et c'est sur cette plateforme située au milieu de cet à-pic d'une cinquantaine de mètres de haut ont été retrouvés, ces ossements éparpillés par les intempéries, une zone invisible depuis les chemins qui longent cette falaise à son pied et à son sommet. Et il a d'ailleurs fallu débroussailler les alentours pour pouvoir y accéder.
Alors des analyses ADN sont en cours, Étienne, elles devraient confirmer qu'il s'agit bien du jeune garçon. C'est sans doute la fin de 6 ans de recherche et de douleur également pour ses proches.
Oui, c'est aussi la fin de 6 ans de questionnement. Toutes les hypothèses avaient circulé, de l'enlèvement, bien entendu, jusqu'au plus folle. Certains avaient évoqué un départ en Syrie. Et puis, des analyses médico-légales vont aussi avoir lieu pour tenter de déterminer les causes de la mort. Enfin, oui, ce sera sans doute une étape importante pour la famille de Lucas et la possibilité pour les habitants de la région d'avoir des réponses. Raymond Dupuis est le maire de la commune voisine de Saint-Gervais.
Je vais tourner la page pour les parents aussi, puis qu'ils vont faire leur deuil certainement. Mais bon, je pense beaucoup à eux parce qu'ils doivent être peut-être soulagés d'un côté de connaître l'issue de cette disparition. Et en même temps, malheureusement, oui.
Hélas. Étienne Baudu depuis Bagnols-sur-Cèze. Merci beaucoup Étienne. Comme nous vous l'annoncions en début de semaine, 30 ans jour pour jour après la découverte du corps de Guylaine Marshall, son ancien jardinier Omar Radad a déposé hier via ses avocats une demande en révision de sa condamnation. La défense appuie sur 4 nouvelles empreintes retrouvées à plusieurs endroits de la scène de crime.
10 jours après l'accident de trottinette qui a coûté la vie à une jeune Italienne à Paris, 2 femmes sont toujours ce matin en garde à vue.
Il s'agit de 2 infirmières qui conduisaient l'engin électrique au moment du drame. Elles sont soupçonnées d'avoir provoqué le choc et d'avoir ensuite pris la fuite. Que risque-t-elle aujourd'hui, Thomas Proutot ?
Eh bien, les 2 jeunes soignantes pourraient être mises en examen pour homicide involontaire aggravé d'un délit de fuite à l'issue de leur garde à vue. Une infraction passible de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. C'est grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance des rues parisiennes que les policiers sont remontés jusqu'à ces 2 suspects. Ils disposent également de témoignages et notamment celui de l'amie de l'Italienne décédée, elle aussi renversée mais sans gravité. Elle a vu s'enfuir les 2 jeunes femmes en trottinette après le choc. Depuis hier, les enquêteurs du service judiciaire de traitement des accidents confrontent les 2 infirmières interpellées à ces éléments pour tenter, si c'est bien elles, de les amener à reconnaître les faits et surtout de comprendre pourquoi elles se sont enfuies après l'accident en abandonnant au sol une personne gravement blessée.
Thomas Proutot. Drôle d'intervention hier pour des policiers à Dijon, appelés en plein milieu de l'après-midi pour aller sortir d'une fontaine une femme de 50 ans qui avait décidé d'y prendre un bain un peu particulier puisqu'elle avait versé dans l'eau auparavant près de 50 000 euros en petites coupures, des billets de 10, de 20, de 50 euros. Il a fallu vider la fontaine pour collecter la d'argent. La nageuse était suivie pour des problèmes psychiatriques.
Le gouvernement n'exclut pas de retarder la levée des dernières restrictions si l'épidémie venait à repartir.
Ouais, c'est le cas dans les Landes, on l'évoquait hier matin, où les taux de contamination repartent à la hausse en raison du variant Delta. Tout cela conjugué à la baisse du rythme des vaccinations, de quoi inquiéter les autorités sanitaires. Pourtant, les stocks sont là, les doses sont disponibles partout, mais les créneaux de réservation restent vides. C'est ce que constate notamment en banlieue parisienne le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son vaccinodrome reste désespérément désert.
On a une chute, on avait 100%, voire plus, bien sûr, des rendez-vous pris. Là, on n'en a que 30%. Mais nous, on a un centre qui fait environ 20 000 vaccinations par semaine. Et là, on est en train de se diriger vers 10 000. Donc, si on descend en dessous de 10 000, c'est de le fermer entre le 15 et le 30 juillet. Le coût, sinon, serait très, très, très coûteux. Mais il faut que toute la France soit aussi vaccinée de façon le plus équitable possible. Et il faut stimuler les 30%, voire plus, qui ne croient pas encore dans la vaccination. Il faut bien voir que, malheureusement, ils concourent à transmettre les nouveaux variants. Ça, ils ne le savent pas. Donc il faut leur dire.
Jean-Michel Fourgos au micro de Vincent Serrano.
RTL 7h06, dans deux jours, ouvriront de nouveau les bureaux de vote, cette fois pour le second tour des élections régionales et départementales.
La campagne officielle se termine ce soir. Elle aura été rapide mais intense par endroits. Plusieurs duels musclés en PACA où LR et le RN sont au coude à coude. En Ile-de-France, où Valérie Pécresse doit faire face à Julien Bayou, derrière qui la gauche s'est rangée. L'écologiste sera d'ailleurs l'invité de RTL tout à l'heure à 7h45. Reste une inconnue de taille, l'abstention. Alors, au vu des résultats du premier tour, inutile de se risquer à des pronostics, mais il est essentiel de comprendre cette fracture démocratique. Et toute la semaine, pour RTL, Valentin Boisset a sillonné le pays à la rencontre de ses nombreux électeurs, jeunes souvent, qui ont largement boudé les urnes. Dernier point d'étape ce matin à Saint-Claude, dans le Jura, où est installée l'usine MBF. Les salariés ont appris cette semaine sa liquidation. Et vous l'avez constaté, Valentin, les promesses politiques ici, on n'en attend plus grand-chose.
Oui, je suis arrivé à Saint-Claude par un premier rond-point, deux pancartes, une noire, non à la fermeture de la fonderie, puis une blanche, il faut rouvrir la maternité. Ici, 70% de la population s'est abstenue, en incluant donc les plus jeunes comme Zach qui n'a jamais voté.
Ouais, les gens vont voter parce qu'ils ont du temps à perdre. Qu'est-ce qu'il fait le président ? Ça, comment dire, à un pays qui est dans la merde, il essaie de faire bonne image. Mais
la commune s'est vidée de 3000 habitants en 20 ans, alors la maternité a dû fermer. Et pour ceux qui restent, les jeunes, c'est le genre de dossier dont les politiques devraient s'emparer, mais c'est en vain pour Amandine et Théo.
S'il y a des mères qui ont besoin d'accoucher obligatoirement, ils vont pas aller jusqu'à Oyonnax parce que ça serait un peu trop tard.
Typiquement, les politiques, ils pourraient aider ou pas ?
Bah oui, ils pourraient aider.
Très bonne question. Moi aussi, je me la pose cette question. Pourquoi ils aident pas, quoi ?
Ils bougent pas.
On nous promet des trucs, mais on attend longtemps. Des fois, ça se réalise jamais.
Ces jeunes ont donc décidé de ne plus voter à la fonderie. Le piquet de grève continue. Le dossier était devenu politique avec la campagne.
J'étais allé voter dimanche dernier.
Olivier est un jeune fondeur. Cette semaine, son usine a été liquidée, 280 salariés sont menacés.
Derrière, c'est l'hôpital qui va prendre une claque, les écoles, ça va empirer les choses. L'État qui nous a abandonnés. Après les élections, bah, j'espère qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui n'iront pas voter. Ma carte d'électeur, je l'ai déchirée à Dijon déjà. Là, après le coup qu'ils nous ont fait, c'est terminé les élections. Moi, j'irai plus voter. On peut crever la gueule ouverte, ils s'en foutent.
L'impuissance des pouvoirs publics face aux difficultés locales. Olivier ne glissera donc plus de bulletin dans une urne. Les programmes reçus cette semaine sont déjà partis dans sa poubelle.
Un reportage signé Valentin Boisset.
Aux États-Unis maintenant, l'effondrement spectaculaire dans la nuit de mercredi à jeudi d'un immeuble de 12 étages à Miami.
Un immeuble résidentiel, les autorités redoutent un très lourd bilan. Une personne au moins a trouvé la mort, mais on est toujours sans nouvelles d'une centaine d'habitants qui pourraient avoir été présents à l'intérieur de l'édifice au moment de l'effondrement. Les causes du drame sont pour l'instant inexpliquées. C'est ce qu'on appelle un sale quart d'heure, passer un sale quart d'heure. Hier, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a été durement chahuté par ses homologues européens lors du sommet qui se tenait à Bruxelles. En cause, cette loi contre la promotion, pour reprendre le terme du texte, de l'homosexualité. La plupart des dirigeants ont vertement critiqué sa politique. Bénédicte Tassard, ils n'ont pas ménagé, c'est rare, leurs collègues hongrois.
Oui, dans la salle au plafond et à la moquette arc-en-ciel du Conseil européen, les attaques directes ont fusé contre Orban. La carte de l'émotion d'abord, avec le Premier ministre luxembourgeois. « Je ne suis pas devenu gay, je le suis, ce n'est pas un choix. Je te respecte, mais c'est une ligne rouge », a ainsi lancé à Viktor Orban Xavier Bettel. « Tu étais libéral, que s'est-il passé ?» a interrogé Emmanuel Macron. Plus agressif, Mark Rutte, chef du gouvernement néerlandais. « Si les valeurs de l'Union européenne ne te conviennent pas, tu n'as qu'à activer l'article 50 du traité comme l'ont fait les Britanniques. Le Portugais Costa de renchérir, il est possible de revenir à une simple relation économique avec la Hongrie, comme c'est le cas avec la Norvège ou la Suisse, et le Suédois Löfven de menacer, mais citoyens n'ont pas envie d'envoyer de l'argent à un pays agissant de la sorte. Le Premier ministre hongrois a crié au malentendu, mais la fracture est bien visible. Pas de sanctions annoncées, la Hongrie a jusqu'à mercredi prochain pour revenir à davantage de tolérance.
Bénédicte Tassard.
Il est 7h11.
L'Euro sur RTL.
L'inquiétude chez les Bleus à trois jours du match contre la Suisse dans le cadre des huitièmes finales de l'Euro, on le rappelle. Et alors que la liste des joueurs blessés s'allonge.
Si l'on en croit le journal L'Équipe, Lucas Digne, touché à la cuisse avant-hier, serait forfait pour le prochain match. Incertitude également sur le cas de Lucas Hernandez, blessé lui au genou. Et ce ne sont pas les seuls, Nicolas Georgeron.
Oui, ça commence à faire beaucoup des pépins supplémentaires. Hier, Thomas Lemar, le milieu de l'Atlético de Madrid, dans un contact à l'entraînement, touché à la jambe gauche, à la cheville notamment. Il a dû être aidé par deux membres de l'encadrement pour quitter le terrain. Dans la soirée, il a pu remarcher, moins gêné par la douleur. Pour Marcus Thuram, l'attaquant, c'est la cuisse, les adducteurs. Rien n'est acté définitivement pour ces deux joueurs. Participation possible ou forfait contre la Suisse. Le staff attend de voir l'évolution des blessures sous 24-48 heures. En revanche, Lucas Digne, sorti en début de seconde période face au Portugal, ne devrait pas être apte à disputer le 8e de finale lundi prochain. Lucas Hernandez, autre latéral gauche touché en match, reste incertain. Il y a ces bobos, il y a eu le départ d'Ousmane Dembélé déjà du groupe il y a quelques jours. Ça s'accumule pour les Bleus, relativement épargnés à la Coupe du Monde en 2018.
Les Bleus qui s'envolent ce matin pour Bucarest, donc en Roumanie, où ils disputeront lundi ce huitième de finale contre la Suisse. La finale du top 14 ce soir, avec une jauge exceptionnellement revue à la hausse au Stade de France. 5000 personnes habituellement, ils seront 14 000 ce soir pour la confrontation entre les deux stades du moment, le Toulousain et le Rochelet. Les deux clubs ont dominé la saison régulière. Toulouse, meilleure attaque du top 14. La Rochelle, meilleure défense. Cela promet une rencontre intense à suivre dans RTL Rugby avec Eric Silvestro dès 20h.
Et nous serons avec le président du Stade Rochelet, Vincent Merlingue, à 8h20 en direct sur RTL. Les courses, elles ont lieu à Vincennes et en nocturne.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 11, le 7, le 4, le 9, le 13 et le 10. La dernière minute, c'est le 4 de la...